Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb au programme de ce soir du voyage artistique, des bruits très très forts, de la chevalerie, de la bagarre et peut-être un voyage vers une galaxie très très lointaine. Attention, à tout de suite après le générique, si je le retrouve.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rampez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes d'abord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pendant une heure, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Que moi je vais passer un bon moment en votre compagnie. Bon alors, je ne vous cache pas que ce soir l'émission est un petit peu à l'arrache, parce que je suis un petit peu beaucoup fatigué, mais ça, vous vous en fichez. La seule chose qui vous intéresse, c'est que je vous bascule de belles choses, de belles musiques, de belles images, parce que c'est ça surtout qui vous intéresse. Alors, de quoi on va parler ce soir? Déjà, on va vous parler d'un petit manga, d'une série que personne ne connaît. Donc, c'est une adaptation en manga d'une série que l'on peut retrouver sur Disney+, qui est publiée aux éditions Nobinobi. C'est de Yusuke Osawa. Ça parle d'un type tout seul avec un enfant qui essaie de le protéger. Alors, le type a un petit peu une armure. Il a un petit peu un blaster, il lutte un petit peu contre l'Empire, et puis l'enfant qu'il protège, c'est un enfant avec de grandes oreilles, il est un petit peu tout vert, donc voilà, je sais pas, oui, vous avez levé la main là-bas, vous au fond, oui, eh ben bien sûr, c'est le Mandalorien en bande dessinée, plus précisément en manga. Alors, si vous avez pas lu le Mandalorien, ben, je viens de vous faire un résumé, hein. C'est un... Si je devais faire quand même un petit peu l'effort, on pense que c'est une adaptation, on retrouve du Far West, on retrouve aussi du samouraï, puisque je rappelle quand même que Star Wars est fortement inspiré de la forteresse de... j'ai perdu le nom de Kurosawa. Mince, j'ai perdu le nom. Bon, bref, Star Wars est forcément et très fortement inspiré d'un film japonais et a transposé ça dans une émission, dans une galaxie très très lointaine. Et il faut savoir que The Mandalorian puise, selon moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, dans le manga Baby Cart. Un manga où on suit un homme célibataire qui va... protéger un enfant qui on suppose le sien, on ne sait pas trop au départ, et il va va se promener avec cet enfant et trucider toutes les personnes qui lui veulent du mal, parce que il y a des gens qui aiment ça, vouloir du mal aux autres, donc c'est pas super cool, donc voilà. Et du coup il y a plein d'armes, il est très très fort. Alors dans Baby Cart, les armes, elles sont dans le landau qui protège l'enfant. Dans le Mandalorian, bah, les armes, elles sont dans le Mandalorian, puisque c'est une monstruosité de puissance. Il est super balèze, donc c'est aussi ça qui est hyper intéressant. Alors, j'ai beaucoup parlé des inspis du Mandalorian, mais qu'est-ce que ça vaut en fait cette adaptation ? Alors, je vais être peut-être un petit peu brut de décoffrage, puisque si vous avez vu déjà la série, vous allez avoir l'impression de revoir en fait la série en le lisant. L'adaptation est plutôt bonne, le graphisme est plutôt fidèle, on retrouve et on reconnaît très facilement les personnages. L'histoire est la même, on s'attarde peut-être un petit peu plus sur certains détails, certaines ambiances, même si la série est quand même beaucoup, elle est plutôt contemplative au départ, donc ça marche bien. On retrouve en fait vraiment l'essence de la série The Mandalorian dans cette adaptation manga. Donc c'est plutôt vraiment cool. Donc n'hésitez pas. Voilà, il faut y aller. C'est une série qui est encore en cours. Il y a 2 tomes actuellement de parus. Ça complète et ça enrichit l'univers manga en fait de Star Wars chez Nobinobi, avec Vision, avec les séries Leia, les séries et une autre série dont je vous ai pas encore parlé dans l'univers manga, avec c'est Étoiles perdues de mémoire, qui s'oriente plutôt du côté de l'Empire, et puis le premier tome de Vision, l'adaptation de la série Disney Plus en manga également. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous cherchez du manga Star Wars, allez chez Nobinobi, vous trouverez pas mal de choses, de quoi satisfaire soit votre esprit de fan, ou de compléter effectivement les séries que vous avez pu voir, soit de chercher des choses un petit peu nouvelles, donc il y a vraiment de quoi faire. Ça c'était la chronique pour The Mandalorian, du coup un manga Star Wars publié aux éditions Nobinobi et dessiné et adapté par Yusuke Osawa. Voilà. Je voulais faire un petit point sur Witch is War. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous en ai parlé, c'est un manga qui est publié chez Pika Edition, c'est un scénario de Omura Kawamoto et un dessin de Makoto Shiozuka. Pour vous refaire le pitch très simple, c'est un manga où il y a une déesse dont j'ai perdu le nom, qui a décidé de récupérer 32 femmes de l'histoire, 32 femmes existantes, qui sont considérées par leur père comme étant des sorcières, et de les faire combattre les unes contre les autres, et celle qui va sortir victorieuse de ce tournoi aura le droit de voir exaucer l'un de ses vœux. Alors, c'est un manga qui a quand même pas mal de fanservice, hein, on va pas se le cacher. Les héroïnes sont dans des tenues plutôt stylisées, elles ont beaucoup de choses. Elles sont. C'est pas le terme sexualisé, elles sont très érotisées. Quand même, il y a des tenues qui sont originales, il y a des armes en fait, elles ont une espèce de ce qu'on appelle une armure de sorcière qui est liée à leur pouvoir, et le gros intérêt c'est surtout en fait de pouvoir aller chercher des infos sur ces personnages historiques et aussi de donner de l'information. Ce qui est hyper intéressant, c'est que peu de temps après que j'ai lu le tome 2, qui était consacré à un combat entre Jeanne d'Arc, que tout le monde connaît, hein, si vous connaissez pas, ouvrez un livre d'histoire, vous aurez les infos, et Wu Zetian. Wu Zetian, je connaissais absolument pas comme femme, et j'ai été chercher, et c'est la première impératrice du Japon, la première impératrice de Chine, et qui a eu un destin plutôt particulier qui lui a valu d'être considérée comme une empoisonneuse, une politicienne hors pair, mais surtout une complotiste finie. Et là, ça nous permet de se poser la question de savoir qui était cette femme-là. Et puis, là, dans ce tome 3, là, qui est sorti il y a quelques temps déjà, je crois, on a une nouvelle protagoniste qui va affronter Cléopâtre. Est-ce que j'ai besoin de parler de Cléopâtre ? Encore une fois, si vous ne savez pas qui est Cléopâtre, je vous invite à ouvrir un livre d'histoire. Par contre, si vous cherchez en Europe Himiko, peut-être que ça ne va pas vous parler. Alors, si vous êtes fan de manga, le nom Himiko à mon avis, doit faire un petit peu écho dans votre tête, mais c'est la première reine du Japon, qui était considérée comme un personnage quasi divin avec des pouvoirs magiques. Donc c'est l'occasion de découvrir. Alors, on nous la présente très brièvement. C'est dans le dernier chapitre de ce tome 3, mais du coup ça présage quand même pas mal de choses, et voilà, il y a 32 femmes dont on va découvrir l'histoire, puisque entre chaque combat on va avoir quelques informations qui nous sont données. Alors c'est pas exhaustif, on est d'accord, c'est très romancé, on est d'accord, mais ça a quand même des bases historiques qui sont très intéressantes à aller fouiller pour qui est un petit peu curieux. Donc si vous voulez vous détendre et voir des nanas se battre, elles sont pas dans la boue, hein, attention. Ça reste des combats qui sont sanglants, qui sont assez violents. Mais si ça vous plaît, alliez l'utile à l'agréable. Vous avez un manga qui est sympa, qui est joli, qui est plutôt rythmé, avec des combats qui sont plutôt facilement lisibles et qui vous invite aussi à aller chercher des informations sur l'histoire, notamment à travers des femmes qui ont eu un destin plutôt particulier. Voilà. Si vous connaissez pas vous, Étienne, il y a eu une vidéo de Laurent Turcot de l'Histoire vous le dira sur YouTube qui est revenue sur l'histoire de cette femme, et je vous avoue que quand j'ai vu son nom, j'ai fait mais ce nom-là me parle, je l'avais lu avant, et c'était hyper intéressant de voir le destin assez particulier de cette femme. Je vous redonne les infos, c'est Witch's War, là c'est le tome 3 que j'ai dans les mains, c'est publié aux éditions Pika, et c'est Domura Kawamoto et dessiné par Makoto Chiyozuka. Faire une toute petite pause musicale avec une chanson d'un groupe que j'adore, qui est absolument fabuleux, qui s'appelle Tenacious D, avec une chanson qui s'appelle Video Games, une chanson qui vous explique que de toute façon on joue pas aux jeux vidéo parce qu'on n'a pas le temps, mais peut-être que.
Are you plugged in?
Yeah.
All right, ready? 1, 2, 1, 2, 3. I don't play video games no more. I never play video games. Except for a little bit of God of War. I never play video games. Maybe once in a while, a little bit of Fallout 4. But that's okay, not right now. I got things to do. 'Cause I don't play video games no more. Never play video games. But Red Dead Redemption 2, that is not a game. It's an incredible journey through old American history. Fighting for your life and fighting for your family. Try to live your days with honor and integrity. That's not a game, that's an adult thing. That's not a game at all. That's like fucking Shakespeare. Freaking. You know I don't play video games no more. Tiny bit of video game. I guess I still play. That's it. That's the one. It's on the album.
C'est les choses dites sur le 101.5 de Radio G avec la chanson Video Games. Vous êtes toujours dans la case de Seb. J'espère que ça va bien de votre côté. Moi, ça va toujours. C'est toujours une émission un petit peu improvisée, mais pas tout à fait. Et là, je vais vous faire un focus sur une maison d'édition avec deux ouvrages complètement différents l'un de l'autre. Je vais pas vous détailler les maisons d'édition parce que j'ai pas fouillé. Hein. Ça s'appelle les éditions Lapin et on m'a proposé deux livres. Donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre et je vais commencer par Marc, qui est un livre de David Rowe. Alors quand il y a marqué, quand je vous dis Marc, c'est la fantastique histoire des marques et logos célèbres en bande dessinée. Alors, c'est un livre éducatif. C'est un livre qui est là pour vous permettre d'attiser votre curiosité et puis de satisfaire votre curiosité et de répondre à des questions que vous ne vous posiez absolument pas de manière plutôt ludique. Le but ici, c'est en quelques pages de se poser sur la création d'une marque, son logo, les éventuelles significations de son logo ou les éventuelles évolutions de son logo. Alors, David Rowe, il aime bien les livres un petit peu étranges. Hein. Il aime bien parler en bande dessinée, mais il est, selon ses propres dires ou les dires de son éditeur, un spécialiste de typographie et de cassoulet. Alors quand je dis spécialiste de typographie, c'est que son livre précédent ne parlait que de typographie. Donc c'était très intéressant à mon avis pour les personnes qui travaillent dans l'industrie du livre. C'était l'ABCD de la typographie et c'est caractère. Ah oui, parce qu'il y a eu l'ABCD de la typographie et il y a eu caractère. Voilà, j'y arrive. Et du coup, là, il a fait quelque chose qui est sans doute un petit peu plus accessible pour les gens, à savoir leur parler de choses qu'ils voient, qu'ils côtoient tous les jours, à savoir des marques. Son style graphique, c'est presque des photos. Alors, il n'y a pas beaucoup de narration interséquentielle. C'est pas le but. C'est vraiment de raconter une histoire avec des images posées qui vont pouvoir vous apprendre des choses. Par exemple, est-ce que vous saviez que le logo de Cadillac était lié à un personnage français, hein? Alors ça, vous saviez forcément, pas forcément. Est-ce que vous saviez pourquoi BMW est relié à l'aviation? Et du coup, ce que signifie son logo? Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont un peu plus complexes, notamment Apple, que vous connaissez certainement, mais vous saviez que les déclinaisons arc-en-ciel, elles ont une signification. Elles ont été pensées, c'est pas juste on a collé un arc-en-ciel dans une pomme. Vous pouvez aussi apprendre que 3M, qui est une boîte qui fait beaucoup de rubans, de scotch, de choses comme ça, est-ce que vous saviez comment est né le post-it? Si vous ne saviez pas, moi je le sais maintenant, hein, parce que du coup j'ai lu ce livre-là. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à apprendre sur des marques, la conception de Ray-Ban, l'histoire de Quicksilver, ce que représente le logo de Quicksilver, hein, qui est aussi lié un petit peu à l'art séquentiel, puisque c'est la grande vague de Kanagawa, de Hokusai, qui est stylisée. Donc il y a plein de choses à apprendre. Je pense que cet ouvrage, à la base, il était prévu pour être picoré. Hein, on ne se cache pas, c'est que quelques pages par marque, c'est vraiment quelque chose de fluide. En fait. On lit, et une fois qu'on a commencé une marque, on tombe sur une autre marque qu'on connaît. Et puis on va pousser un peu plus loin, et puis un peu plus loin, et puis un peu plus loin. Et puis à chaque fois, on apprend énormément de choses, alors qu'il... soyons honnêtes, ne vont pas vous servir dans votre quotidien, mais si vous voulez vous la péter, vous pouvez auprès de vos amis qui sont fans d'art leur rappeler quand même que le logo de Choupa Choups, il a été dessiné par Dali. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont vous servir à rien, sauf si vous faites des études sur les marques ou le commerce. Hein, ça, effectivement, il y a des choses qui vont peut-être vous intéresser, mais c'est un petit bouquin qui regorge de plein d'informations à la fois aussi indispensables qu'absolument inutile, mais qui en le rend complètement agréable à lire et complètement intéressant à savoir. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un vrai petit bijou, un vrai petit moment de plaisir. Voilà. J'ajoute quand même un truc, c'est qu'on vous apprend des trucs, mais ça n'empêche pas David Rowe de faire des vannes dedans. Hein, c'est pas un bouquin chiant. Qu'on soit d'accord, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre aussi qu'il y a peut-être certaines mythologies, hein, c'est pas des complots, c'est un certain fait qu'on prend pour des acquis qui n'ont jamais été confirmés. Par exemple, il y a un fait qui dit que le Petit Lu de la marque Petit Lu, hein, de la marque Lu, il y aurait une signification sur l'allégorie du temps, sauf que ça a jamais été confirmé nulle part. Hein, donc voilà. Donc un bouquin vraiment sympa. N'hésitez pas à y aller. C'est un bouquin qui, encore une fois, sans mauvaise idée, sans mauvaise façon, c'est pas un bouquin que je vais maltraiter, mais que je vais avoir quand même pas mal de plaisir à laisser dans mes toilettes pour que n'importe qui puisse le consulter et en quelques instants, le temps de faire ce qu'il a à faire dans cette pièce d'intimité, puisse apprendre quelque chose et surtout se dire, bah tiens, je reviendrai peut-être souvent pour apprendre d'autres choses ou au moins m'acheter le livre. Donc, je redonne les infos, c'est Marc, avec un point d'exclamation, la fantastique histoire des marques et logos célèbres en bande dessinée, c'est de David Rowe, et c'est publié aux éditions Lapin. J'ai appris tellement de trucs dans ce bouquin que je suis obligé de me retenir, parce que sinon je continuerai à vous parler des petits secrets, notamment des petites guéguerres entre deux fabricants de chaussures. Bref, autre salle, autre ambiance. Comment décrire cet ouvrage? Vous aimez la bière, vous aimez l'odeur de sueur, vous aimez les cris gutturaux, vous savez ce que c'est qu'un pogo, vous savez ce que c'est qu'un moche, un slam, ben vous êtes au bon endroit puisque il s'agit de Metal Maniacs. Alors Metal Maniacs, c'est un livre sur le oui, bien sûr, sur le métal. C'est créé par Feff et Slow. C'est des dessins du coup et textes de Slow et c'est accompagné au scénario de Feff. Et c'est une intégrale en fait qui a été, c'est une intégrale colorisée qui reprend en fait les publications de Metal Maniacs, une série qui avait été créée pour un magazine, j'ai perdu son nom. Je vous dis que c'est un petit peu à la one again. Bon, Metal Maniacs, c'est voilà pour les Hard Rock Mag de 2010. Et Metal Maniacs, ça va vous parler du coup du métal. Alors le métal, si vous ne connaissez pas, c'est un genre musical multiple. Parce que il y a autant de genres de métal que de fans de métal. Et là, on va suivre un groupe de potes qui se retrouve dans un bar qui s'appelle le Dark Knight, qui est un bar à bière et à métal. Et on va suivre leurs aventures sur fond musical. Comment dire ? La première vanne m'a fait mourir de rire. La deuxième, du coup, du bouquin. Les gars, ils sont là, puis ils écoutent un bruit. Ils sont persuadés que c'est un son. Alors nous, en tant que lecteur, on l'identifie pas facile. Ça peut être, ça fait un truc comme brolom brolom crunk, brolom brolom crunk, brolom brolom crunk. Donc ça peut être une rythmique métal. Il y a des choses comme ça. Et ils s'interrogent. Ils disent ouais, mais ce serait peut-être plus tel type de groupe. Ouais, mais il y a pas de synthé. Ouais, mais alors c'est peut-être ce groupe-là. Ouais, mais c'est pas assez guttural et tout. Et ils finissent par demander au barman. Et du coup, c'est quoi ça qu'on écoute là depuis tout à l'heure? Et ben, le barman de leur répondre que c'est simplement le percolateur qui est en panne. Donc, c'est un petit peu dommage de pas faire la différence, mais ça montre un peu que y a quand même une réflexion là-dedans. Et nos quatre héros, donc qui incarnent chacun une typologie de métal. Hein, on va avoir le goth, on va avoir le punk, on va avoir le hardos, et puis le je ne sais plus ce qu'il écoute. Le plutôt old school façon Guns N' Roses vont se retrouver à avoir un jeune garçon qui devait être initié au métal par un de ses potes et puis son pote s'est jamais pointé et il se retrouve perdu un petit peu au milieu de cette faune un petit peu hétéroclite et chevelue dans ce bar et il va se faire prendre sous son épaule, enfin il va être pris sous l'épaule de nos quatre lascars qui vont lui faire découvrir la musique métal jusqu'à lui amener à, comment dire, une sorte d'indépendance musicale qu'il va arriver à se forger de manière assez simple. C'est vraiment très drôle. Je pense que si vous aimez pas le métal, ça peut vous faire découvrir le métal. Mais je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais pour un fan de métal, c'est une pure pépite. Les gars représentent les quatre en fait représentent le comment dire quatre genres musicaux, mais de manière assez large, qui sont des genres qui sont souvent opposés et qui sont parfois clivants dans le milieu métal. Et on suit leur van, mais aussi leur vie quotidienne. On a, je crois que c'est Spike, qui a un petit peu un problème à garder des boulots, parce qu'il est un petit peu trop radical. On a Sam, si je ne me trompe pas, qui lui a des problèmes à avoir des colocs, parce qu'il est un petit peu trop exigeant. Donc il y a plein de petites vannes comme ça qui sont plutôt drôles, qui marchent bien. On sent que c'est un ouvrage qui aime le métal le plus possible. Je vous ai pas parlé du style graphique. Alors les deux premières pages, on sent qu'elles ont pas mal vécu. Par contre, au fur et à mesure, on finit par arriver à avoir, je sais pas, il y a une étrangeté, parce que certains personnages sont un petit peu plus caricaturaux que d'autres, mais il y a ce côté un petit peu crade, un petit peu vivant musicalement, c'est quasiment des pages qui sont musicales. On sent ça. Il y a des vannes qui nous font ressentir le côté musical, notamment avec le petit jeune là qui, j'ai perdu le nom, je suis désolé, c'est un jeune qui découvre en fait la musique et on voit visuellement ce que lui ressent. Spécial dédicace à une toute petite page, mais très efficace, où il enclenche son Walkman. Il a une espèce de grosse image qui représente ce qui vient de lui arriver en musique en pleine tête. Et puis là, il est un pan qui explose. Et c'est exactement ce qu'on peut ressentir en écoutant certains groupes. Donc c'est vraiment un bon passage. L'ouvrage, donc ça se lit facilement, ça se lit très vite. Non, ça demande un peu de temps quand même, mais ça se lit vraiment très bien. Et puis à la toute fin, vous avez deux trois petites choses en complément, enfin deux choses. Vous avez le petit lexique métalleux à l'adresse des non initiés. C'est une dizaine d'explications de mots qu'on peut retrouver dans le langage métal, que ce soit headbanging, mosh, pogo ou simplement le slam, où on vous explique ce que c'est. Ce qui est plutôt cool. Et puis vous avez une brève histoire du métal, une histoire du métal en 15 dates qui vont de moins 1100 jusqu'à nos jours, avec des dates qui ont été plutôt importantes pour les fans de musique extrême, ce qui est vraiment cool. Ça va de l'avènement du métal en passant par la sacralisation du métal à l'Eurovision, voilà. Et c'est vraiment un truc de dingue. C'est un bon bouquin. Pour les fans de métal, c'est une valeur sûre. Pour les gens qui sont pas fans de métal, ça va vous initier, ça va vous faire découvrir le côté un peu gras parfois du métal, avec une bonne dose d'humour, mais si vous avez un petit peu de second degré, mais alors ça va être un pur plaisir pouvoir de découvrir ça. Donc n'hésitez pas à aller checker Metal Maniacs. Alors, je sais pas si c'est le sous-titre, mais c'est 1+2=666. C'est publié aux éditions Lapin et c'est de Fef et Slow. Et c'est du bon son dans les oreilles. Je vais vous mettre du bon son. Je ne mettrai pas le groupe préféré des protagonistes qui s'appelle Defenestrator, parce que encore une fois, si vous n'êtes pas initié à la musique métal, ça va vous faire très 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 bizarre. Je vais vous mettre un truc qui est un petit peu plus digeste, mais qui est quand même plutôt sympa, à savoir Dragon Force Through the Fire and the Flames, qui est un morceau quasi culte pour tout joueur de jeux vidéo et de musique métal. On se retrouve juste après. We ride towards the fight. When the Dragon Force sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. J'espère que ça vous a bien décrassé les oreilles. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça. Alors, si j'avais toujours des cheveux, j'aurais fait un pogo et j'aurais headbangé à mort. Mais du coup, ben, j'ai plus de cheveux. Donc, bref, assez épilogué sur ma life. Je voulais continuer à vous parler de BD puisque je n'arrive pas à le retrouver. Très prochainement, on va avoir le tome 3 de Paria, des amis Boris Beuzelin et Tony Emerio, qui va être en financement participatif. Alors, il est déjà en financement participatif. Si vous suivez régulièrement la case de Seb, vous savez que j'en ai déjà pas mal parlé. C'est un projet qui est vraiment excellent, un projet steampunk mécatopique, comme ils en parlent. C'est publié chez Comics Initiative. Là, actuellement, c'est déjà financé. Il reste 34 jours et c'est déjà un succès, à plus de 150% de la mise initiale demandée. Donc, bah, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment top. Moi, je vous en reparlerai dans 15 jours avec une interview que j'avais réalisée lors de l'Angers Geek Fest. Où vous allez pouvoir écouter Tony et Boris en parler avec l'amour qu'ils portent à leur petit bébé. Vous avez la possibilité d'aller sur Ulule financer le projet. On détaillera peut-être les contreparties, je ne sais pas. En tout cas, c'est une valeur sûre, c'est déjà financé. Les deux premiers tomes sont absolument géniaux. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez? Enfin, faut y aller, quoi. Donc, Paria 3 sur Ulule, c'est des copains, c'était l'instant copinage, mais ça fait toujours plaisir. Je vais faire... Pardon, j'ai failli vous tousser dans l'oreille. On va parler un petit peu chevalerie, avec deux ouvrages très différents. On va commencer avec Tête de chien, qui est publié aux éditions d'Argo. C'est un ouvrage qui est scénarisé par Vincent Brujas, dessiné par Ronan Toulotte, et des couleurs de Johan Guillot, publié aux éditions d'Argo, je crois que je l'ai déjà dit. C'est l'histoire de deux chevaliers qui vivent de... comment dire, de rançon. En fait, ils se battent avec des gens et quand tu gagnes, tu peux exiger une rançon en fait de la personne que tu as vaincue pour lui laisser la vie sauve ou surtout pour éviter de la faire prisonnière. Donc tu peux gagner correctement ta vie et celle de tes compagnons. Et on suit du coup Chevron d'argent et Tête de chien. Qui sont deux chevaliers itinérants. Et puis ils vont de tournoi en tournoi, ils sont accompagnés de leur écuyer, Apollin, qui est un gamin un petit peu débrouillard et qui est plutôt malin quand il s'agit de trouver des solutions à ses maîtres, et qui les accompagne. Et puis, il y a un moment où c'est-à-dire que Paulin, il a sa façon à lui, parfois d'aider ses patrons, une façon qui peut-être lui poser des problèmes. Et puis ses patrons, ils aiment bien avoir quelque chose parce que Tête de chien, c'est une femme. Il faut pas que ça se sache. Donc c'est plutôt discret. C'est une BD qui est plutôt dense. On est sur 136 pages, mais c'est... Alors, ceux qui connaissent pas Ronan Toulotte et Vincent Brujas, c'est un duo d'inséparables qui nous ont fait déjà Le Roi des Ribauds, qui nous ont fait, je vais pas reciter tout leur palmarès, mais Chaos Team, Bloc 109, Iradei, République du Crâne. C'est vraiment un duo qui fonctionne très bien, qui sait très bien raconter des histoires. Vincent Brujas arrive à sourcer correctement les choses, à faire on a l'impression de lire une BD historique alors que il y a quand même pas mal de choses qui sont fantasmées, mais c'est très précis dans ce qu'il raconte, c'est passionnant dans la façon dont c'est raconté. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous emmène et qui va vous captiver de bout en bout. Et puis ça, c'est lié aussi au dessin de Ronan Toulaute qui est assez fabuleux, un dessin que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, on en parle pas souvent en fait, mais les coloristes font toujours un boulot de dingue, qui est un boulot qui passe presque inaperçu. Et celui-ci marche très très bien. Il y a vraiment quelque chose de très cool. Les teintes de l'ouvrage sont dans les tons rouge ocre, qui renforcent l'aspect côté médiéval. Mais il y a des passages des passages de bagarre, des passages de joute, de duel, qui sont en bichromie, qui peuvent simplement passer sur les tons bleus, les tons oranges, qui donnent un sentiment très particulier. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très agréable à lire, donc c'est un bel ouvrage qui est passionnant. Les pages de garde sont vraiment stylées. Je l'aurais bien vu en fascicule avec des petites couvertures comme ça. Si jamais vous m'entendez, Dargo, un petit fascicule de quelques pages façon comics. Je pense que ça pourrait marcher de manière assez étonnante, tellement les couves de chapitres sont captivantes. Et puis, alors je sais pas, je saurais jamais dire quelle est la part scénariste et quelle est la part dessinateur, mais on a des duels, on a des combats qui sont très dynamiques, dont le cadrage est vraiment très efficace. J'aurais tendance à penser que c'est plus dû au dessinateur, à Ronan justement, qui sait mettre en scène, mais je pense que c'est aussi un petit peu des deux. Je pense que Vincent Brugias a aussi pas mal d'idées sur les cadrages qu'il aimerait voir, et on va dire que l'alchimie entre les deux dessinateurs, enfin les deux auteurs, fonctionne vraiment du feu de Dieu, et c'est vraiment un ouvrage qui passe bien. C'est un ouvrage qui est quand même pas mal violent. Après, ça parle de chevalerie, ça parle de la violence aussi de ces combats-là. Donc, c'est plutôt cool. Et l'histoire est pleine de petits rebondissements. Encore une fois, c'est sans dévaloriser hein, le travail. C'est pas des waouh ou des waouh. C'est des petites choses où tu fais ah, y a un problème. Et justement, ce petit truc rend le truc encore plus vivant, parce que c'est pas un twist de gros guenin, mais on sent que cette petite chose pose pas mal de problèmes et pas mal d'incidences derrière qu'il va falloir résoudre. C'est le petit grain de sable dans le rouage qui va pousser un petit peu plus loin l'aventure des personnages et les secrets qu'ils cachent. Mais voilà, ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc je vous redonne les références. C'est Tête de chien, un scénario de Vincent Brugias, c'est un dessin de Ronan Toulaute avec des couleurs de Yoann Guillot. C'est le livre 1. C'est publié aux éditions d'Argo. Je sais pas combien il y a de tomes. J'ai pas l'impression qu'on ait l'information, mais c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à y aller. Et puis on continue dans la chevalerie, mais autre temps, autre ambiance avec Écuyère de Sarah Alfaguay et Nadia Chamas aux éditions Bliss. Je m'excuse si j'ai écorché les noms de ces deux autrices. Comment dire ? Alors là, on est sur un tome qui est hyper dense. Alors, au vu de sa taille par rapport à son nombre de pages, est-ce qu'on est sur un petit format tablette hein, format, je suis nul avec les formats. Par contre, on est sur 336 pages avec une couverture souple à rabat. Un format qu'on retrouve quand même pas mal chez Bliss Edition. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aïsia et qui aurait aimé devenir chevalier. En fait, elle fait partie de l'empire Bait Saïdi. Et elle fait partie d'une petite ethnie, les Ornus, qui ont une faction dissidente. Ça, c'est pas vraiment détaillé, mais c'est des gens en fait qui sont contre l'Empire. Et elle, de sa nation, elle aimerait bien, en fait, s'engager et changer son statut social, puisque, en tant qu'ornue, elle est plutôt mise au banc, mal dans sa peau, mal considérée, et puis plutôt pauvre. Et du coup, elle aimerait bien pouvoir changer de statut. Et pour ça, elle peut essayer d'être recrutée en tant qu'écuyère dans l'armée de Bait Sadji. Et il faut pour cela passer un concours où, si tu es recruté, tu deviens un apprenti et tu es formé. Et seuls les plus braves deviendront des écuyers. Et en tant qu'ornou, elle a sur le bras droit, que je ne raconte pas de bêtises, une sorte de tatouage rituel, une sorte de tatouage tribal traditionnel, qui fait que y a que les ornous qui ont ça. Et comme les ornous sont un petit peu mis au banc de la société, il faut qu'elle puisse le cacher. Du coup, elle met un bandage, chose qui est plutôt discrète et qui passe plutôt bien. Mais vous vous en doutez un petit peu, en tant que future écuyère, en tant qu'aspirante, elle va rencontrer plein de gens différents. Elle va rencontrer plein d'ethnies différentes, tout en leur cachant à eux sa vraie nature. Et elle va se rendre compte que elle n'est pas toute seule à vouloir changer de vie, mais que tous ont des motivations plus ou moins différentes. Un qui veut simplement prouver à son père qu'il est le plus fort, un qui veut simplement se prouver à lui-même qu'il est capable d'autre chose. Et tout ça, ça va emmener des aventures qui sont complètement ordinaires, on va dire. C'est l'apprentissage de la vie dans un milieu militaire avec les je ne sais plus parler ce soir, avec les différences et puis les avantages que peuvent fournir certains grades, puisque quand tu es déjà depuis là, tu es depuis quelque temps dans l'école, tu as certains avantages. Et puis un jour, Isa va se faire réprimander. Et puis pour la réprimander, on va lui dire le soir, en plus de tes journées d'entraînement, tu vas aller surveiller et faire de la garde à tel endroit. Et là, elle va rencontrer quelqu'un qui, parce qu'elle lui a demandé, va accepter de l'entraîner et lui permettre d'avoir de meilleures notes, si on peut parler, d'être mieux considéré parmi les aspirants. Donc, c'est vraiment, avec des retournements de situation, attention, je vous spoil pas tout ça parce que c'est un bouquin qui est quand même hyper dense, mais on se prend de passion pour cette jeune fille qui essaie de changer de vie, qui essaye de se cacher, mais en ne reniant pas ses origines. Simplement, elle les fait plus discrètes, chose qui n'est pas toujours simple, hein, vous allez l'admettre. Et on a un ouvrage qui est très dense, qui est très intéressant. Je mets juste un petit bémol. Alors, le dessin est vraiment sympa. Je reviens sur mon bémol juste après, mais le dessin est vraiment sympa. Il y a un côté, on est sur une texture plutôt mate et ça marche bien. Les personnages sont plutôt souples. Au niveau des cheveux, par exemple, il y a un côté très fluctuant, mais les personnages sont pas rigides. On sent qu'ils sont vivants, qu'ils ont des postures. Les scènes de combat sont plutôt réussi, plutôt efficace. On voit aussi des paginations. Alors, il n'y a pas de splash page de mémoire. Vous savez, les grandes doubles pages avec juste une seule image qu'on voit beaucoup dans les comics. Mais il y a pas mal de cadrages. Il y a pas mal de petites choses, de petites trouvées artistiques qui sont plutôt agréables. Il y a un passage, par exemple, où Aïssa se promène tard le soir. Elle va rencontrer quelqu'un et le cadrage forme des alcôves et des poutres qui ne sont pas là. Donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt agréable, ça fait une belle mise en ambiance et les couleurs sont vraiment bien réussies. Par contre, il y a quelques petites erreurs de dessin, notamment, alors je ne sais pas si c'est dû à la pagination, mais il y en a quelques-unes qui sont différentes, mais le bandage qui change de bras ou qui n'est pas là, ou il y a des petits points de détail comme ça qui sont un petit peu gênants. Mais ça n'empêche pas de passer un très bon moment avec cet ouvrage, qui est vraiment une grande aventure, une quête initiatique en fait pour le lecteur et pour Aïssa, tout en restant aussi une critique un petit peu de la guerre et de ce que sont les gens. Les autrices, alors il y a des postfaces qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont dans tous les ouvrages, des petits moments où on va nous expliquer les intentions de l'ouvrage. Là, ce qui est hyper intéressant selon moi, c'est que les deux autrices sont arabo-américaines et que y a une période en fait où si vous étiez pas tout à fait de la couleur standard américaine, vous étiez montré du doigt parce qu'il y a eu des situations un petit peu conflictuelles. Je ne vous cache pas qu'il y a des tours qui sont tombées, qu'il y a eu une guerre, il y a toujours des guerres, et que ça permet aussi de relativiser en fait la situation d'une nation vis-à-vis d'autre chose. C'est pas parce que tu es pas de la bonne couleur que t'as pas le droit de t'intégrer, que t'as pas le droit de faire les efforts pour t'intégrer et que tu n'y arriveras pas. C'est absolument faux et tout le monde a droit à sa chance. Et c'est aussi ça que veulent montrer les autrices dedans. C'est selon moi un ouvrage qui a été fait avec tout le cœur qu'on peut lui mettre. Les personnages sont vraiment attachants, on sent qu'il y a une psychologie qui évolue au fil du temps. Il y a des personnages qu'on va détester et qu'on va finir par arriver à apprécier parce que ils ont changé. Mais il y a, je pense, parfois aussi les petits problèmes d'un premier ouvrage où on aurait peut-être pu amener certaines choses à construire un peu plus loin. Donc voilà, on passe un très très bon moment. Il y a quelques petites erreurs. Je rappelle, c'est une première BD des deux autrices qui s'en sortent quand même avec brio. Et on passe un excellent moment avec Aïssa et son aventure qui n'est, ma foi, pas très très simple. Pour le public, c'est plutôt ado. Il y a quand même des bagarres, il y a des thématiques qui sont un peu complexes. Il y a un peu de violence, mais ça reste quand même quelque chose de très accessible. Jeune ado, ça passera très bien. Si vous avez un ado qui aime la lecture, n'hésitez pas à lui filer l'ouvrage. Vous avez quasiment 400 pages, 340 pages quasiment. Bon, si vous avez un ado qui lit bien, vous êtes tranquille pendant à peu près une demi-heure, quoi. mais ouais, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est vraiment une belle BD, donc n'hésitez pas, c'était plutôt une belle surprise pour ma part. Je vous redonne les références, il s'agit d'Écuyères, c'est de Sarah Alfaghi et de Nadia Chamas, c'est publié aux éditions Bliss Edition. Je sais pas si je vous ai déjà dit le bien que je pensais de Bliss Edition, parce qu'il y a plein de choses vraiment très cool là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est toujours des belles surprises et souvent c'est de la BD américaine, donc c'est du comics techniquement, mais c'est pas de la BD américaine avec des super-héros, même si les héros qu'on peut y croiser sont quand même un petit peu des héros un peu super. Il va être un petit peu tard pour que je vous parle, pour que je vous mette une nouvelle pause musicale. Je vais pas avoir le temps, c'est juste avoir le temps de vous parler d'un autre ouvrage, un petit peu perturbant. Je sais même pas si j'en ai pas déjà parlé. Tellement voilà, c'est si j'ai aimé et que j'en parle plein de fois, vous allez pouvoir découvrir avec moi un petit peu plus cette histoire. Ça s'appelle, il y a des mangas où il y a les titres à rallonge. Ça s'appelle Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. C'est un manga pas du tout du genre isekai, mais qui parle d'isekai. Alors, est-ce que vous vous rappelez, si vous suivez la case de Seb, ce que c'est qu'un isekai? Alors, un isekai, je vais vous simplifier le truc, c'est l'histoire d'un individu de notre réalité qui, par un malencontreux concours de circonstances, finit par mourir et va se réincarner dans un autre monde. Dans cet autre monde, souvent, il est super cheaté. Si c'est un monde qui a de la magie, il est ultra fort en magie. Si c'est un monde qui a des combats, il est ultra fort en combat. Si c'est un monde qui où la puissance se mesure en richesse, il va devenir ultra riche. C'est un genre dont on a presque une overdose, selon moi, parce qu'on en bouffe beaucoup avec plus ou moins de réussite, ce qui fait que y a des gens qui fuient les isekai de manière systématique. Mais voilà, C'est un genre. Là, ce n'est pas un isekai, mais ça parle d'isekai. Donc, c'est Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. C'est publié aux éditions Mana Books. C'est une histoire de Kanemoto et de Hikari Shibata. Pour l'instant, il y a un tome en France. Il faut savoir que la série est terminée en 5 tomes, donc c'est pas une grosse série, mais c'est une série qui va vous demander un petit peu d'investissement en temps et de vous poser des questions. Comment dire ? C'est l'histoire d'un jeune adulte qui s'appelle Dobara et il est employé de bureau. C'est le salaryman lambda dans un Japon. Et un jour, il y a une jeune femme qui s'appelle Miyo Yama qui débarque et qui lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi ». Alors lui, ça lui fait un petit peu bizarre parce que ça fait un petit peu 17 ans qu'il a pas vu la nana. La nana va lui expliquer un truc, c'est que son fils a eu un tragique accident de voiture et qu'elle est persuadée en fait qu'il l'attend dans un autre monde. Et alors lui, il dit « Pourquoi tu me demandes à moi de t'aider à le retrouver, ton fils, parce que du coup, j'ai pas de pouvoir magique, je sais pas aller dans un autre monde. Ouais, mais toi, t'étais plutôt un geek. T'étais plutôt un nerd qui lisait beaucoup de mangas quand on était à l'école. Du coup, je pense que tu peux m'aider. » Et du coup, elle s'incruste quand même vraiment dans sa life comme ça, sans vraiment lui demander son avis. Et puis du coup, lui, comme il la trouve plutôt mignonne et puis qu'il a pas de petite amie, il dit ben, « Bon gré, mal gré. » Il va aller l'aider comprendre un petit peu ce que c'est qu'un isekai, parce que elle a ce sentiment que son fils a été réincarné dans un autre monde, mais elle ne sait pas le quantifier. Les isekai, elle a ce sentiment là, mais elle en a pas lu tant que ça. Alors du coup, elle va essayer de comprendre. Et pouvoir lui fournir des mangas isekai par exemple le fait de mourir percuté par un véhicule n'est pas le seul moyen de rejoindre un autre monde. Il va lui inviter à essayer de trouver peut-être un portail magique ou à tomber dans un livre. Elle a des idées elle aussi sur la façon dont elle pourrait peut-être rejoindre son fils dans cet autre monde, qui sont pas très très joyeuses, donc il va essayer de les dissuader en lui montrant qu'il y a d'autres moyens peut-être plus safe pour la santé que des moyens très radicaux qu'on voit souvent juste en intro d'isekai. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une analyse des isekai sur fond de love story, parce que du coup on se doute bien que il y a un moment ou un autre des sentiments qui vont se montrer, tout en sachant qu'il y a toute une partie de la vie de Miyo, qui nous est simplement suggéré. On ne sait pas ce qui devient de son mari, si elle avait un mari, ce qu'il est, pourquoi ça ne semble pas l'inquiéter qu'elle ne soit plus là. Et on a des petits indices comme ça qui parsèment le manga pour nous faire découvrir un petit peu sa vie par l'intermédiaire de ces brefs échanges. Donc c'est un manga qui parle beaucoup, qui raconte beaucoup de choses, qui fait parfois un petit peu de l'analyse, mais c'est un manga qui est plutôt intéressant. Je vous avoue que j'étais plutôt surpris. Je veux pas dire du mal du travail d'éditeur, parce que j'aime pas dire du mal des choses, mais on avait quelque chose, une couverture vraiment très sobre avec un titre un petit peu à rallonge avec des petites couleurs bleues, roses, très éthérées, et je savais pas trop ce que ça allait donner, et la couverture m'attirait pas plus que ça. Mais c'était une petite découverte vraiment sympa, puisque le sujet est intéressant, les personnages sont intéressants, même si des fois on a envie de leur mettre des baffes parce qu'ils nous agacent un petit peu. Mais c'est vraiment un bon moment, une belle découverte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. C'est une histoire de Kanemoto. C'est un dessin de Hikari Shibata et c'est publié aux éditions Mana Books. Allez-y, c'est vraiment sympa, puis 5 tomes, voilà, vous n'allez pas vous ruiner, ce sera un bon moment.
That's all, folks.
On recommence.
That's all, folks.
Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui énonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en cette heure en ma compagnie. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver le podcast sur le www.radio-g.fr. Là, on se retrouve dans 15 jours pour parler du coup de Paria avec une interview plus ou moins tronçonnée faite à l'Angers Geek Fest. Et puis, si tout se passe bien, enfin tout se passera bien, on se retrouve aussi la semaine prochaine avec les Voix du Scénarium, mardi de 22 à 23 heures. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une bonne soirée. En n'oubliant pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout.